Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff, c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trou.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, son. What's your name?
Murphy.
Je suis un porc! Je suis une ordure! Ah! Je suis pourri! Je suis lépreux!
Put a spell on you. Because you're mad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 7e Antiquaire, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et la raison pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça actuellement, fait parce que j'enregistre le lundi matin, chose qui est un peu étrange, ou du moins inconvenue ou inadvertant. Je sais pas trop exactement, je vais perdre un peu mes mots. C'est que demain, mardi, je me fais opérer pour les cordes vocales. Pour les auditeurs de longue date, auditeurs, auditrices, vous savez que j'ai une condition, en fait, vous pouvez l'entendre ici même. Condition cordes vocales qui fait en sorte que je dois me faire opérer à peu près une fois par année pour des raisons d'entretien. Et c'est demain qu'arrivera cette journée. Je vais être totalement honnête avec vous, c'est parce que ça fait si longtemps, ça fait maintenant 2 ans que j'ai pas été opéré, je suis stressé, je suis très 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 dérangé par cette opération-là. Normalement, je garderais ce stress-là à l'intérieur, mais bon, comme vous le savez bien, c'est ici où je viens parler de mes trucs. Donc ça me travaille, je suis pas 100% confiant, je sais que tout va bien se passer, j'ai une confiance immense envers mon chirurgien. Tout se passe toujours bien normalement. Mais il y a qu'est-ce qu'on appelle les petits papillons. Puis c'est vraiment actuellement qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Je vais pas super bien parce que je ne suis pas super stable. C'est pas le fun. En fait, c'est moins l'opération qui me dérange que la semaine qui va suivre, qui est une semaine de silence total, qui est toujours très anxiogène pour moi socialement de vivre parmi les gens, mais sans pouvoir communiquer. Ça fait que je vais probablement aller mieux mercredi, mais là, on est lundi, je suis 24 heures avant mon opération, puis ça tourne pas rond, j'ai mal au ventre, j'ai un peu mal au cœur. Ça me tombe pas, honnêtement. Mais, puisque la semaine dernière, en fait, je voulais faire l'émission sur Takeshi Kitano, mais Dusan Markaziev, vu que je suis pas capable de prononcer son nom actuellement, le réalisateur de Sweet Movie est décédé, ben on a repassé cette émission-là où David et moi, on a parlé de ces films extrêmement étrange pour un peu honorer, mais aussi démystifier la carrière de cet homme-là, surtout suite à une des rencontres les plus étranges que j'ai fait de l'histoire de l'émission, cette rencontre dont on explique les tenants et aboutissants avec Harold Lord. Puis cette semaine, j'aurais aisément pu continuer en disant, bon, regarde, je mets des reprises, puis on laisse faire, mais ça fait longtemps que je parle de cette émission-là sur Takeshi Kitano, et que je veux absolument la faire. Je disais toujours, je vais la faire quand elle va être prête. Et maintenant, elle est prête. Puis malgré que mes conditions mentales ne sont pas les meilleures pour être capable de faire la meilleure émission, je tiens quand même très fortement à la faire, parce que je veux qu'elle sorte avant que je puisse plus parler. Puis je ne veux pas qu'elle sorte dans 2 semaines, je veux qu'elle sorte maintenant. Donc, si c'est malhabile, si j'ai de la maladresse, si j'ai de la difficulté à trouver mes mots, vous m'excuserez. J'espère que je ne ruinerai pas l'expérience pour vous à cause de mon état psychologique, mais je trouve que cette émission-là est prête. Il faut qu'elle sorte. Donc, Takeshi Kitano, que plusieurs connaissent maintenant comme le réalisateur hautement décoré pour des œuvres telles Son Zatoichi, Dolls, en fait, Hanabi, qui a gagné un Lion d'or. On connaît énormément Kitano pour les films qui ont été exportés, mais un peu dans l'idée de faire ses premières émissions, ses émissions sur les premiers films, je me suis dit que j'irais voir le premier film, Violent Cop, Mais ensuite, en écoutant Boiling Point et ensuite en voyant A Scene at the Sea, il me disant que on pouvait aisément parler de Kitano comme un avant et après son accident, ben je me suis dit, regarde, c'est ça qui va se passer. On va faire l'émission, non pas sur le premier film de Kitano, mais sur la première vie cinématographique de Takeshi Kitano. Donc, pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers ou au courant, Takeshi Kitano est un réalisateur japonais extrêmement important actuellement. Il a eu un accident de motocyclette en 95. Donc, c'est à partir de 95 que je fais le cut-off par rapport au film dont il a réalisé. Et c'est ce qui fait en sorte, comme je vous dis, que je vais parler de Violent Cop, Boiling Point, A Scene at the Sea et Sonatine, puis qu'on va arrêter à Kids Return. Il y a plusieurs autres raisons. Vous allez voir en quoi c'est pas nécessairement arbitraire. C'est plusieurs raisons que j'ai extirpées de sa biographie que vous voyez ici, Kitano par Kitano, que j'ai lu pour l'émission. Et aussi en utilisant des collections de Film Movement que vous pouvez aller chercher à la BNQ, mais que, bon, tout le monde... Honnêtement, en France, il y a vraiment une plus grande variété de belles éditions des films de Kitano. Ici, on n'a pas tant de difficultés à trouver ces films, mais il y a deux versions qui ont été distribuées de Violent Cop et de Boiling Point. La première étant extrêmement médiocre, celle avec laquelle j'ai eu mes premières aventures avec les premiers films de Kitano. Mais celle-ci fonctionne et tient quand même énormément la route, notamment parce qu'on y donne un traitement assez intéressant, notamment avec des essais et aussi des vignettes, des featurettes d'une vingtaine de minutes pour chacun des films qui sert un peu à être contextualisé par rapport au début de Kitano. Parce que, bon, suite à sa reconnaissance internationale, Kitano s'est très bien cimenté dans l'imaginaire mondial. Mais qu'est-ce que je trouve d'intéressant, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine et qui va être pas mal le nœud de la guerre par rapport à toute cette émission-là, c'est de cerner son iconographie nippone. Qu'est-ce qu'il est pour le territoire et pour l'imaginaire japonais? Parce que c'est pas mal là-dessus que gravite sa première carrière, si on peut dire. Mais première carrière, c'est quand même assez, c'est assez complexe. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que j'hésite, c'est pas j'hésite, en fait, je jongle autour de ce fait-là. Bon, pour des raisons, somme toute, extrêmement personnelles, je vais appeler le premier cycle de Kitano son cycle de baseball. Parce que, bon, malgré que je n'ai pas, je vais vous l'admettre, réécouté Hanabi pour l'émission, j'ai pas réécouté Kids Return, il y a la présence de baseball dans les quatre premiers films de Kitano. Et le baseball est quelque chose de très important pour lui à cette époque-là. Je ne dis pas nécessairement que le baseball perd de l'importance plus tard, mais il est très présent dans ses débuts de cinéma. Et bon, on en a parlé assez souvent, je suis un grand fan de baseball, un grand fan de cinéma de baseball. Puis c'était le fun de voir qu'il y a au moins un tout petit peu de baseball dans les quatre premiers films. Donc, je commence rapidement en disant que la première ambiguïté par rapport à Kitano, c'est qu'on n'est pas exposé à sa carrière télévisuelle. Et on n'est pas du tout, donc, exposé à toute la carrière qui l'a amené à devenir réalisateur, amené à devenir vedette internationale, amené à devenir une des 10 personnalités les plus iconiques du Japon actuellement. Puis ça, c'est tout son travail qu'il a fait en tant qu'humoriste manzai. Donc, l'humoriste manzai qui était Takeshi, c'est essentiellement, le manzai, c'est une forme de insult comic, qu'on pourrait dire. Donc, des humoristes très rapides sur la rétorque, très dénigrants. C'est des blagues très objectifiantes, c'est très réducteur, mais c'est des blagues aussi extrêmement grasses, ainsi de suite, qui sont livrées avec un tac au tac, un sang-froid, si on peut dire, qui est extrêmement reconnu comme une forme importante et limite traditionnelle au Japon. Un point tel qu'on en a un terme, vous voyez, mais comme vous savez bien, au Japon, on a des termes pour à peu près tout. Bref, Kitano a commencé comme artiste manzai avec un ami d'enfance, un monsieur qui s'appelait Kiyoshi. En fait, c'était un duo comique qui s'intitulait les Two Beats. Donc, il y avait Beat Takeshi et Beat Kiyoshi qui faisaient ce duo-là. Et bon, ils ont travaillé très, très, très longtemps ensemble. Et ils sont devenus des très importantes figures par rapport à ça. Kitano l'explique quand même particulièrement bien dans sa biographie. Sa carrière part de son travail avec son ami et fait en sorte que il sera jamais très longtemps hors de la vue du public japonais. Il est toujours à la télévision. Je ne sais pas exactement à quelle proportion, mais je pense qu'il y a un moment dans le livre où il explique qu'il joue dans 8 téléséries simultanément. C'est pas n'importe quoi que de dire que Kitano est continuellement à la télévision. Et c'est pas inhabituel, en fait. Ces genres de personnalités-là ont un nom. Puis tout ça est venu de ce duo-là, tout ça est venu de cette première popularité-là en tant qu'humoriste manzai avec Jiro Kiyoshi. Ce duo-là s'est séparé. Ils ne travaillent plus ensemble. De la manière que Kitano en parle, c'est assez poli. Malgré qu'on laisse entrevoir, ben en fait, ils n'ont plus jamais retravaillé ensemble, malgré une séparation polie. Donc, peut-être que ça s'est mal passé. Peut-être que maintenant, ils sont juste extrêmement gentils l'un envers l'autre. Mais, bref, quand cette union-là s'est terminée, ben Kitano s'est retrouvé à continuer à travailler de manière autonome, indépendante, et a fait de plus en plus de projets, si on peut dire. Le truc avec Kitano, c'est que et on le dit rétroactivement beaucoup, mais je pense que j'ai fait beaucoup de millages par rapport à cette réflexion-là, c'est qu'il est arrivé au bon moment, puis il est arrivé aussi pour circonscrire des peurs de l'époque et aussi de servir comme catharsis pour beaucoup de trucs qui est en train de se passer socialement à ce moment-là au Japon. Donc on regarde des trucs comme les essais de Tom Vick qui sont présents, comme je vous dis, dans les DVD. Tom Vick dit que il a pris un peu le timing humoristique qu'il a appris avec le manzai et il l'a appliqué dans son cinéma à la violence. Et cette violence-là servait un peu à contrer le stress qui était ambiant. Puis bon, malheureusement, je connais pas particulièrement bien le climat économique et politique des années 80 au Japon. Je pense que ça prend un autre niveau d'érudition pour être capable de commenter de façon éclairée ce moment-là qui a dû être très, très, très précis, là, la reconstruction, ainsi que la remontée fulgurante en capitalisme du Japon suite à la guerre. Ben il y a comme une phrase que je trouve qui est vraiment importante, c'est là où ce qu'on dit que Kitano était le clown anti-stress, à l'heure où le Japon tire profit de sa bulle économique. Donc, une énorme croissance, mais une croissance qui se fait, puis ça c'est quelque chose qu'on sait bien par rapport à l'histoire, qui se fait de façon tellement fulgurante que l'adaptation est un peu malhabile et complexe. L'ajustement à ce rythme de vie-là et l'adaptation à ce nouveau style de vie et ne vient pas sans certaines frictions. Et Kitano devient la figure parfaite pour être capable d'accompagner cette transition-là et le fait de manière très à la fois humoristique mais à la fois violente. Il vient allier ces deux forces-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport au caractère japonais de cette époque-là où la violence et l'humour sont interchangeables mais fonctionnent dans la même rythmique. Donc on dit toujours, tu sais, qu'est-ce qu'il y a par rapport au timing comique? Et là, on peut aussi rajouter qu'est-ce qu'il y a par rapport au timing violent. Puis ça fonctionne très bien aussi avec le... Je vous dirais, ou du moins ça, c'est peut-être somme toute une impression très personnelle, mais l'ultra-modernité qui s'est abattue sur le Japon à cette époque-là, en rajoutant aussi la prise de conscience. Parce que c'est pas comme si ça se faisait à leur insu. C'est cette espèce d'accélérationnisme, parce que c'est évident que c'est le Japon qui a reçu l'accélérationnisme en pleine gueule en premier. Ben, cet accélérationnisme est venu avec une grande réflexion. Et nous sommes actuellement, à l'aube de J.J. Ballard, dans cette bulle de prise de conscience par rapport à l'accélérationnisme, qui fait en sorte que Kitano, actuellement, est plus moderne et important que jamais. Donc, j'avais dans mes notes cette idée-là qu'il est le clown dont nous avons besoin. Puis, à mon avis, c'est pas pour rien que Kitano arrive en grande pompe vers les années 2000, là où l'accélérationnisme commence à se faire sentir en territoire occidental. Kitano a servi énormément en tant que figure, puis en tant qu'icône, à aider l'anxiété d'un pays complet, qui allait trop vite dans son progrès. Ben, trop vite, c'est très subjectif comme diagnostic. Mais il fonctionne tout aussi bien maintenant. Sauf qu'il est maintenant dans une autre étape de sa vie. Puis vous allez voir avec les exemples de ces films, rapidement d'autres trucs que j'ai découvert par rapport à sa bio que je trouve qui sont extraordinaires. Bon, un acteur de théâtre qui a été formé, en fait, son grand maître, c'est un homme qui s'appelle Senzaburo Fukami. Et Senzaburo Fukami a vu, en fait, a été avec Kitano jusqu'à à peu près le début des années 80. Et il y a une histoire, en fait, terriblement déchirante que moi, j'avais jamais entendue, autant que j'ai toujours eu une appréciation, une fascination depuis Hanabi pour Kitano. En 1983, lorsque Kitano commence à véritablement se faire connaître, commence à devenir le ben en fait, non, il était déjà connu, mais qui peut véritablement commencer à apprécier son succès, il passe une soirée avec son maître, Senzaburo Fukami, où ils boivent énormément, une grande soirée où ils décident de vraiment, vraiment trinquer, comme correctement, là, je vous dirais. Et cette soirée-là, en fait, en grande fête, Kitano sort, décide, après cette soirée grandement arrosée, de quitter, rentrer à la maison, évidemment, en titubant. Je pense que c'est un peu vers les alentours du moment où il a joué pour Nagisa Oshima dans Furio, dans Happy Merry Christmas, Mr. Lawrence, avec David Bowie. Ben, ce soir-là, en fait, suite à cette fête, le maître de Kitano ne se rendra pas compte qu'il y a un feu dans sa maison et décédera. Il va mourir, il va périr dans un feu d'appartement que l'on suspecte qui a été provoqué par cette fête-là. Donc Takeshi Kitano fête une dernière fois avec son maître et conséquemment un peu... signe, ben en fait, il n'est pas du tout responsable. Il faut quand même qu'on s'entende sur ça. Je ne veux pas du tout dire que Kitano a provoqué la mort de son maître, malgré que dans la biographie, il admettra toujours être un peu... se sentir toujours un peu coupable par rapport à ça, que c'est pas de sa faute, mais que il malencontreusement été là au moment où le comment est-ce que je peux dire ça? Je ne veux pas l'accuser, c'est ça qui est particulier. J'essaie d'être très, très sensible, malgré que le ton que Kitano tient dans sa biographie est beaucoup plus accusatoire et beaucoup plus comme s'il en était un peu responsable. Il n'est pas responsable, il se sent coupable, ou il a un remords par rapport à cette situation-là. Mais bon, il a fait la fête, ils l'ont bu énormément, jusqu'à en perdre leur sens. Kitano est parti. Les sens perdus de son maître ont fait en sorte qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte qu'il y avait une cigarette allumée et qu'il aurait probablement pu passer au feu pour ces raisons-là. Bref, je voulais en parler non pas pour mettre une forme d'ambiguïté par rapport à la carrière de Kitano, ni mettre une ambiguïté par rapport à sa personnalité, parce que en lisant son livre et en voyant ses œuvres, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'ambiguïté chez le personnage. C'est un homme qui est très cohérent et qui, dans sa persona publique et dans ses œuvres d'art, sont fonctionnent, disons, en parallèle. Il n'y a pas tant d'ambiguïté dans qu'est-ce qu'il est, puis il n'y a pas tant non plus de brouillement entre... Je trouve que le fait qu'on traite Kitano comme un clown n'altère pas du tout les propos de ses films. Il y a juste une différence de cap par rapport au clownesque. Mais bon, on va en revenir. Donc, toute cette idée-là par rapport à la mort de son maître n'est pas une bévue sur son personnage, mais pour moi, devient comme un bloc important biographique pour comprendre qu'est-ce qui va venir. L'autre truc aussi, c'est le 9 décembre 1986. Donc, on est encore même avant ses réalisations. En 1986, en fait, il y a un autre événement dont... Je ne crois pas qu'on a vraiment eu vent à l'époque, mais en même temps, 86, j'avais 4 ans, donc que sais-je. C'est un événement qui a été très, très, très marquant là-bas et qui est ambigu, si je peux dire, parce que c'est un événement extrêmement violent. Donc, Kitano est actuellement beaucoup plus gêné, beaucoup plus... il a beaucoup de remords par rapport à ce moment-là. Moi, étrangement, en lisant, je trouve que ça... ça démontre beaucoup de caractère. C'est un événement qui gravite autour d'un un magazine qui s'appelle un périodique là-bas qui s'appelle le Friday. Donc le truc, c'est que le magazine Friday en 1986 a poursuivi une femme, en fait une femme que je pas nécessairement le goût d'aller trouver son nom. Elle n'est pas nommée dans le livre, mais c'est une femme que ce magazine à potins croyait être l'amante de Kitano. Et là, le paparazzi a fait beaucoup de pression envers cette femme-là. Ils l'ont abordée de manière très impolie. Ils ont été très insistants envers elle. Et ça a fait en sorte que Kitano a été pris de colère. Et le 9 décembre 1986, il est rentré, accompagné de 10 autres hommes, pour démolir le pulpit, si on peut dire, le bureau chef de ce magazine-là. Donc ici, il y a une plus grande ambiguïté par rapport au personnage de Kitano, puisqu'il y a une grande violence. En fait, il dit dans le livre qu'il a presque l'impression d'avoir tué quelqu'un. Il a vraiment perdu la carte, mais il était hors de lui par rapport à toute cette histoire-là d'avoir autant... de s'être autant pris sur une femme qui n'est pas une actrice. En fait, ce n'était pas une professionnelle. En même temps, ça ne change rien, sauf le fait que peut-être que les actrices sont plus habituées à ce genre de talonnage-là. Mais Kitano le dit très bien, ça n'a pas sa place non plus. Les journalistes ou les paparazzi qui se sont attaqués à cette femme-là n'avaient pas du tout raison de faire ça. Et Kitano, hors de lui, a ramassé une bande, puis sont allés sacrer une volée à tout le monde. Suite à ça, les 10 accompagnés ont été... évidemment, il y a eu un emprisonnement. Il y a eu un emprisonnement de 6 mois, je pense, pour Kitano et sa gang. Kitano n'a pas fait de télévision pendant 6 mois. Il dit lui-même qu'il croyait que ça aurait entaché, en quelque sorte, sa réputation, chose que ça n'a pas du tout fait, puisqu'après 6 mois, il est revenu en onde. Il est revenu en ayant proférer des excuses publiques, évidemment, et des excuses qui continuent à dire. Ils continuent à répéter que ce n'était pas quelque chose de noble, que ce n'était pas du bon comportement et tout. Étrangement, moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être des actes qui sont répréhensibles, mais je comprends parfaitement bien d'où venait cette colère. Je comprends totalement aussi pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière-là. Je comprends cette colère-là d'avoir voulu exploiter la vie personnelle d'une femme qui n'était pas du tout impliquée dans cette histoire-là, de vouloir défendre sa vie privée. Bon, évidemment, il est peut-être allé trop loin, mais à cette époque-là, ou peut-être dans cette façon de concevoir, je peux sympathiser un peu avec la tornade émotive dans laquelle il a été pris. Pas à un point tel qu'il aurait dû sacrer une volée à une quinzaine de personnes, mais je le vois. Je trouve que c'est pas les sorties, par exemple, en même temps, comparé avec Sean Penn, c'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Mais en même temps, c'est mon deuxième bloc pour évaluer le Kitano de l'époque. Cette idée-là de quelqu'un qui avait une grande conscience personnelle et aussi une grande conscience morale par rapport à son environnement. Et là, on arrive au troisième bloc. Le troisième bloc, c'est aussi un autre truc dont je n'ai jamais entendu parler, puis que c'est seulement à travers la biographie que j'en entends parler, mais qui est très importante dans la formation de la personnalité cinématographique qui est Kitano. C'est que suite à cet emprisonnement-là, les 10 personnes qui sont probablement nommées, mais que je décide de pas du tout aller chercher les noms individuellement, puis que lui non plus mentionne pas dans la biographie explicitement, Kitano finit par se sentir responsable pour ces 10 autres personnes-là. Donc, il prend sous son aile 10 hommes qu'il surnommera, en fait, son gaïdan. Et son gaïdan, en fait, ou son guidan, je ne sais pas exactement, moi je vais y aller avec gaïdan, devient un peu qu'est-ce qu'on appellera populairement l'armée de Kitano. L'armée de Kitano, ça commence comme étant ces 10 personnes-là que Kitano prend sous son aile, prend sous sa responsabilité, parce que s'il ne les avait pas embarqués dans cet acte d'ultra-violence, ben, il n'y aurait pas eu de casier judiciaire, il n'y aurait pas eu à faire ce 6 mois de prison-là. Donc, il se dit, en volonté de vouloir récupérer un peu sur mon acte, ces hommes-là finissent, sont automatiquement sous ma tutelle. Bon, évidemment, c'est très japonais comme façon d'entrevoir les choses, ou du moins très japonais de façon occidentale de voir les choses. Mais Kitano s'embarque dans cette mission-là d'avoir ce Gaiden, ce Kitano's Army. Il y aura notamment le Masayuki Mori, qui est un des producteurs de Kitano, qui va être le chef du Gaiden. Et le Gaiden va prendre des ampleurs. Va prendre des ampleurs assez intéressantes parce que ça devient un peu... Ça devient à peu près une trentaine de personnes, là, on va s'entendre. C'est un environnement et c'est un entourage étendu qui suivra Kitano. Un peu, c'est drôle, moi, le seul exemple comparatif que j'avais, c'était l'entourage de Eddie Murphy. Dans les années 80-90, Eddie Murphy avait toujours 4 ou 5 gars bâtis comme des joueurs de basketball autour de lui. Puis on disait que c'était jamais vu à l'époque d'Hollywood parce qu'il les amenait avec eux pour les négociations contractuelles. Et ça faisait en sorte que Eddie Murphy était une présence extrêmement intimidante en studio, ou du moins en production, parce que tout le monde disait « Mais là, c'est quoi cette histoire-là d'en rentrer autant de gens? » Puis les gens étaient toujours un peu, non pas mal à l'aise, mais intimidés par la présence d'Eddie Murphy et de son entourage. Mais Kitano, lui, c'est 30 personnes et c'est comme un petit village. Il avait à la fois ses producteurs, il y avait aussi ses acteurs, mais il y avait aussi les personnes qui s'occupaient de sa comptabilité. Il y avait des personnes qui... il y avait son chef. Il y avait vraiment comme... Au-delà de sa clique, c'était pas nécessairement sa gang, c'était aussi son noyau d'autonomie. Avec cette gang-là, il réussit à être entièrement autonome et séparé du monde. Et fonctionnel, si on peut dire. Puis c'est aussi autour de ces temps-là où ce que il a quitté les sociétés de production qu'il produisait à l'époque. Il a ouvert les productions Kitano et c'est pas mal la Guidane qui s'est occupée de la société Kitano. Et c'est son ex-femme, en fait, sa première femme avec laquelle il s'est séparé suite à l'histoire de Friday, avec laquelle il réussit à renouer les ponts et à se remarier plus tard, qui s'occupe de ses finances. Il est toujours très, très, très... redevable de cette femme-là d'avoir pu s'occuper de tout l'aspect financier de sa carrière. Et elle aussi fait partie du Guidan, ou du moins je le crois, je ne voudrais pas trop faire des présuppositions par rapport à ça. Mais Kitano entretient ce groupe-là et est responsable de ce groupe-là. Et c'est ici où il devient un peu comme une PME. Les 8 ou 9 téléséries dans lesquelles il joue servent à financer et aussi gérer par cette équipe-là. Donc il est aussi fort que son équipe. Et son équipe est forte à cause de lui. Fait que ça devient un peu, puis sans vouloir reprendre le modèle féodal, ça devient un shogunat lui-même, si vous voulez y aller dans les métaphores poétiques. C'est les trois pièces que je trouve qui sont très, très importantes. Et oui, avant de terminer aussi, pour clore là-dessus, le Guidan a déjà été une équipe de baseball. Donc je voulais refaire le renouer les ponts par rapport à ça. Ça a été le Takeshi Guidan pendant un certain temps. Et l'armée de Kitano a déjà aussi servi comme équipe de baseball. Et c'est pour ça que je reviens toujours à cette idée d'équipe de baseball par rapport aux 4 prochains films dont je vais parler. Je voulais aussi parler des romans. Étrangement, j'ai abandonné cette idée-là quand j'ai appris qu'il ne les écrivait pas tous. Donc, il y a, vous allez voir, si vous faites un peu de recherche, une carrière d'écrivain extrêmement prolifique. C'est assez dingue, mais c'est pas tout lui qui a écrit ses œuvres. Donc, au final, tu te dis, bon, peut-être que sa production littéraire est beaucoup plus près de celle de Stanley que de celle de Jack Kirby. Dernier truc que je voulais mentionner, c'est dans l'entrevue, en fait, il y a comme un très, très bel entretien Kitano avec d'autres réalisateurs. Et il y a une belle citation que je voulais vous citer directement par rapport à qu'est-ce que Kitano considère être sa place par rapport au cinéma japonais. Il dit, et je cite, « Le cinéma japonais, tel que Kurosawa et Mizoguchi l'ont créé dans l'après-guerre, était, selon moi, pour employer une métaphore, un corps usé. Et moi, je crois que je suis le cancer qui couvait dans ce corps usé. Je dirais aussi, bien sûr, vous, vous êtes usé. Si une major me confie un film à gros budget, je crois qu'alors le cancer rongerait complètement le cinéma japonais et qu'il en mourrait. C'est pourquoi je dis, vous feriez mieux d'ouvrir et de m'extirper tout de suite. Je me vois comme un malade incurable atteint du cancer ou du sida, mais qui restera longtemps encore dans le cinéma. » Je trouve cette position-là extrêmement ambiguë, Et je voulais la souligner, non pas parce que je veux entièrement relire le corpus à la lumière de cette citation-là, mais aussi pour parler du paradoxe, l'ambiguïté de la, la figure de Kitano à l'intérieur, parce qu'il était, à mon avis, en train de moderniser le cinéma de gangster de façon extrêmement sensible et poétique, à l'époque où en Occident, on était encore, ben, on était dans Pulp Fiction. Fait que Violent Cop apparaît un peu comme un film, ben en même temps, on n'est pas dans Pulp Fiction, dans Violent Cop, on est pendant Reservoir Dogs, on est un peu avant. Mais bref, on est dans cette, un moment aux États-Unis où on est autour de Bad Lieutenant de Abel Ferrara, on est autour de Reservoir Dogs de Tarantino, et lui, ben, avec Violent Cop, qui en traduction, honnêtement, le titre ne se traduit pas directement de Violent Cop, de l'expression japonaise, malheureusement, que je n'ai pas sous la main actuellement. À Violent Cop, c'est le titre, s'il est traduit littéralement, c'est « That man being violent ». Ici, c'est important de garder en tête toute la figure du Manzai et la figure télévisuelle de Kitano, parce que c'est cet homme-là, mais étant violent. Donc, on a totalement conscience de la figure populaire de Kitano, mais on dit « Prenons « that man » and make and show him being violent. Montrons-le étant violent. Puis c'est un peu qu'est-ce qui se passe avec Violent Cop. Donc, bon, on le sait pour Violent Cop, ce n'est pas son véritable premier film, du moins, c'est pas comme ça qu'on le traite. C'est Kinji Fukusaku qui était supposé l'avoir réalisé, mais il y a des conflits d'horaires qui font en sorte qu'il n'a pas pu réaliser le film. Kitano reprend le film Fukusaku, c'est réalisateur de Battle Royale. Il revient, bon, il n'y aura pas de nécessairement de bad blood entre les deux réalisateurs, puisque Fukusaku rengagera Kitano pour jouer dans Battle Royale. Mais c'était Fukusaku qui était supposé réaliser le film. Lorsque Kitano reprend le film, en fait, il réécrit à peu près 90% du film, 90% de l'intrigue, et laisse une grande place à l'improvisation. Ça fait en sorte que le film est extrêmement différent des intentions originales. Puis ça fait aussi que le film est d'une légèreté assez déconcertante. Violent Cop est essentiellement, à mon avis, très lisible dans la tradition de Reservoir Dogs et surtout dans la tradition de Bad Lieutenant. On a cette histoire-là d'un policier qui est, non pas amoral, mais qui est plus loin et plus dans les extrêmes que ce que la loi est capable de lui permettre de faire. Il a une espèce de compréhension que la loi ne va pas lui permettre d'arrêter le crime, donc il doit aller au-dessus et au-delà de la loi à certains moments pour être capable de vraiment punir les gens qui font des actes immoraux. Ça commence dès le début, dès l'ouverture, en fait, où on a un mendiant souriant qui se fait attaquer par 3 ou 4 adolescents, et Kitano, qui joue le rôle titre, verra ces jeunes hommes-là commettre cet acte, les suivra jusqu'à leur maison et va s'attaquer à un en disant, en gros, va lui sacrer une volée et lui dire: demain tu vas te rendre au poste de police pour qu'est-ce que tu as fait. Puis ça donne un peu le ton par rapport au film, que tu as un homme qui ira à des extrêmes, qui ira au-dessus de la loi pour être capable de punir des gens qui doivent être punis, mais inévitablement qui s'autodétruira dans le processus. Donc, cet homme étant violent, c'est à la fois une réaction au personnage médiatique, au personnage télévisuel de Kitano, mais aussi en disant, ben, il y a un contrat tacite quand tu te rends dans ces extrêmes-là, c'est que tu ne survivras pas ou tu ne t'en sortiras pas intact. Puis c'est un peu ce qui va se passer dans Violent Cop, c'est qu'il n'y aura pas de transition facile, il n'y aura pas de façon où les sacrifices vont être sans embûche. Il y aura sans doute quelque chose qui fera friction jusqu'à provoquer brisure. Puis c'est un peu ce qui va se passer dans la vie de Kitano à ce moment-là. Il y aura une autre réception. Il va y avoir un autre public. Puis c'est drôle parce que c'est cet autre public-là qui va avoir été informé en premier lieu de la tragédie de la perte de son maître, des excès de l'attaque sur Friday et de la responsabilité qu'il prendra par rapport à son entourage, et aussi la création de cet entourage-là qui, c'est pas anodin, il s'appelle son armée. Donc, tous ces trois blocs-là, tous ces trois aspects très importants de la biographie de Takeshi Kitano que je mentionne, ben, les gens sont parfaitement conscients de ça quand ils vont voir son premier film. La réception, elle est bonne, elle est surprise, disons, mais ça fait pas de Kitano un plus grand réalisateur qu'humoriste. Et ça fait en sorte que Kitano vivra cette transition-là, non pas sans friction. Puis un des trucs que je trouve qui souligne ou qui est un grand marqueur de cette friction-là, c'est la première journée de tournage. En fait, Kitano avait la préoccupation qu'il ne serait pas nécessairement pris au sérieux lors de sa première journée de tournage et que, bon, comme l'adage dit, tu es supposé de rentrer et de démontrer ou faire tomber le plus grand, montrer ton sérieux dès le premier acte pour que tout le monde prenne le pas immédiatement. Kitano, qu'est-ce qu'il a fait dans sa première journée de tournage? C'est qu'il est arrivé en costume traditionnel, en fait, en masque et en costume de Kenpo, avec un sabre de bois, et a dirigé la première journée totalement en habit de combattant, en prêt à se battre. Puis c'est un peu comme ça qu'il a abordé le tournage au grand complet, avec une grande combativité. En fait, il savait qu'il était en train d'aller contre son image et il devait il devait avoir une arme avec lui, si je peux dire de la façon la plus symbolique possible. Il devrait être accompagné d'une arme pour être capable de mener ce combat-là à terme. Puis Violent Cop, c'est essentiellement ça. C'est un homme qui va, un policier qui, comme je vous dis, dès les premiers actes, en fait, puis ensuite viendra une intrigue par rapport à le crime organisé qui va aller dans les plus grands extrêmes, lui qui va jusqu'à battre un pimp dans le precinct, chose qui est totalement compréhensible dans le film, parce que tu suis la moralité de quelqu'un qui dit « Ben, tu sais, ce gars-là est en train de battre sa blonde en plein milieu d'un district de police, faut que tu l'arrêtes, qu'il t'anneau rentre, qu'il sacre une volée. » Tu dis « Ben oui, le gars, il méritait, qu'est-ce que tu veux. » Mais tranquillement, de plus en plus que ça progresse, de plus en plus qu'on voit la déconstruction d'un homme, puis qu'on voit la déchéance de cette figure-là. Puis on la suit, puis ça devient de plus en plus tragique jusqu'à l'ultime tragédie vers la fin. Drôle, à mon avis, ou du moins conscient ou inconscient, un grand intertexte aussi avec le professionnel de Luc Besson. Je pense pas mal évident que Luc Besson a vu Violent Cop pour être capable de créer le personnage de Jean Reno de manière aussi tridimensionnelle. Ça a pris un peu de Takeshi Kitano dans Violent Cop pour être capable de le faire. Mais bon, Violent Cop, comme je vous disais, n'est pas nécessairement son premier film entier. Même dans les versions de Film Movement, on traite Boiling Cop comme étant, dans son featurette, Takeshi's second debut, dans son premier vrai premier film. Puis c'est ça qu'il y a de vrai, qu'il y a de très intéressant, à mon avis, c'est que dans la transition entre Violent Cop et Boiling Point, on voit le Kitano qu'on apprendra à connaître. Mais vraiment, en quittant Violent Cop ou en soutirant le maximum des leçons que Violent Cop nous donne, c'est là où on voit, puis une des choses qui me frappe le plus, c'est qu'en re-regardant Violent Cop, je vois le type d'amoralité qui est nécessaire. Puis c'est ici, bon, évidemment, je reviens avec mon parallèle avec Bad Lieutenant, c'est que ça prend tout son sens. Mais Ferrara nous faisait craindre ces policiers-là. Il était inquiétant, Harvey Keitel. Inquiétant, au-delà que la figure était décousue, était en perte de contrôle, j'avais véritablement peur de Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Puis ça faisait en sorte que toute la police me faisait peur. Parce qu'il était corrompu, parce qu'il était héroïnomane, parce qu'il était fucking en tête, parce qu'il pouvait décider de s'en prendre à moi, comme étant un civil qui n'a rien fait. Kitano n'a pas du tout ça. Ferrara nous montrait le policier comme un bandit dans les rues, mais Kitano lui montre l'homme moral qui doit aller dans les excès pour s'assurer que le crime ne dépasse pas cette ligne-là. C'est vraiment lui qui fait « Bon, ben, on a un code civil, on a un code criminel qui fait en sorte qu'on devrait pouvoir arrêter les criminels, mais les criminels n'écoutent pas ce code-là. Fait qu'il faut qu'on aille jouer dans leur terrain. Il faut qu'on aille les battre dans leurs règles pour qu'ils battent en retraite. » Puis c'est là où Kitano devient, à mon avis, un personnage très moral, parce qu'il va au-delà de la ligne de la moralité pour s'assurer que la ligne amorale ne prenne pas terrain. Puis là, il y a ce premier jeu-là qui est pour moi, une belle un beau début par rapport au personnage. Il est la dernière ligne de front, la ligne de front la plus extrême pour être capable de retenir tous ces gens-là et dire « Non, vous ne me dépassez pas, parce que si vous me dépassez, il y aura chaos. » C'est là où on se retrouve avec les parallèles, bon, avec Bad Lieutenant, mais on se retrouve à avoir, une fois que tout ça, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que tout ça est placé, ben, Boiling Point, et on dirait que Kitano devait faire Violent Cop pour être capable de sortir cette idée-là, puis ensuite il arrive à Boiling Point, puis avec Boiling Point, il peut faire un totalement autre type de film. Il n'y aura pas besoin de s'acharner sur ce point-là. Ce point-là étant bien circonscrit dans le film, on pourra toujours y référer. Ça devient dans l'ADN du personnage cinématographique de Takeshi Kitano, cette ligne de la moralité du personnage. Puis à mon avis, ce n'est plus possible de lire Kitano au cinéma à l'extérieur de cette connaissance-là. Fait que ça devient, pour moi, un film très, très, très important à voir pour totalement cerner la figure qui est Kitano au cinéma. Là, on passe à Boiling Point. Puis Boiling Point, bon, je l'ai déjà mentionné, c'est mon film préféré du personnage. Surtout parce qu'il commence puis qu'il finit par une partie de baseball. Mais non seulement qu'il commence puis finit par une scène de baseball, c'est pas un assez bon argument pour dire « Oh my God, c'est mon film préféré ». C'est que c'est une scène de baseball qui est extrêmement incroyable. Essentiellement, elle se passe dans un porta potty, elle se passe dans une toilette portable. Et essentiellement, avant de dire n'importe quoi d'autre sur le film, je dois vous dire qu'il est très possible que Boiling Point soit le fantasme ou le rêve éveillé de quelqu'un qui s'abole. Et non seulement s'abole, mais s'abole entre deux manches en attendant que qu'il soit appelé au bâton. Et je pense que j'ai déjà chié pendant une game de baseball. Parce que ton corps ne fonctionne pas nécessairement de cette manière-là pendant que tu es en train de faire du sport. Mais ça fait énormément de sens. Autant qu'être aux toilettes, ben cette situation-là de m'être retrouvé en attente pour faire du at-bat, que ce soit dans les estrades, que ce soit sur une balle de toilette, ben l'imagination qui part pendant ces moments-là, autant que si t'es sur le banc, si t'es dans l'estrade ou si t'es aux toilettes, ben ça fonctionne parfaitement bien. Je me suis tellement reconnu dans ce moment-là que juste y penser, ça me fait sourire. Je trouve ça brillant. La traduction du titre japonais, c'est 3 à 4 en octobre. Puis c'est un terme qui, ben en fait, c'est une situation qui est, à mon avis, seulement comprise par les grands fans de baseball. 3 à 4 en octobre, c'est essentiellement cette partie-là à un point de différence en octobre. Puis en octobre, ben, c'est que tu dis que tu es à peu près dans le post-season, fait que tu es en train de faire le race for the pennant, ou soit que tu es dans ton match de World Series. C'est le moment le plus tendu que tu as en baseball. C'est le moment aux enjeux les plus importants. Et tout le mois d'octobre en baseball, c'est aussi le moment le plus brise-cœur. Fait qu'il y a quelque chose, je trouve, de extrêmement, c'est peut-être le titre le plus précis de l'histoire du cinéma, le plus niché. J'ai l'impression que ça dit énormément par rapport à Kitano, qui, lui, a décidé de nommer son premier film avec la référence la plus incomprise. C'est vraiment une très petite proportion de la population qui est fan de baseball et qui comprend ce moment-là, qui comprend la fébrilité de ce moment-là. Puis je trouve qu'il y a sans compromettre de vouloir appeler son film comme ça. C'est pas une affaire de baseball, parce que le film n'est pas nécessairement un film sur le baseball, mais le titre parvient à nous convier cette tension-là qui existe en octobre quand t'es dans une game de baseball et que c'est 3 à 4. Donc, c'est en fait aussi l'idée que t'es peut-être dans le rêve éveillé de quelqu'un qui s'abole et qui chie tout le long, me fait comme totalement capoté. C'est drôle parce qu'il y a un critique qui s'appelle Cassio Abbé qui propose une interprétation du film qui parle aussi du baseball. En fait, il dit que Boiling Point est un peu un commentaire sur la rigidité des codes du baseball comme la rigidité des codes sociaux du Japon. J'ai l'impression que Cassio Abbé n'a pas nécessairement de compréhension ou une grande affection pour les codes du baseball, parce qu'ils l'analysent comme si tout était contraignant. Puis c'est pas nécessairement dans les contraintes, c'est qu'il y a un mystère dans la façon que les règles du baseball, malgré qu'elles soient toutes bien listées, on le sait qu'il y a un grand code du baseball, mais c'est pas dans les règles que la magie opère, c'est entre les règles. Et bon, il y a une scène très importante dans le film qui implique une partie de baseball, c'est qu'il y a un moment où le personnage principal, qui est joué par Yurei Yanagi, dont on viendra plus tard, a enfin son moment à battre. Et là, bon, évidemment, il y a la tension sur le fait de est-ce qu'il va réussir à faire un coup, nanana, est-ce qu'il va se passer de quoi, de il va-tu devenir le héros de la partie? Effectivement, il fait son coup, tout le monde est en enthousiasme de fou, et lui étant tellement heureux, finit par dépasser le joueur qui était au premier but, et en le dépassant, arrive au marbre avant lui, et pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement bien les règles du baseball, c'est une élimination automatique. Fait que ça fait en sorte que le personnage élimine un peu son équipe. Puis ça fait évidemment que Cassio Abe, lui, voit ça comme une injustice. En quoi est-ce que l'équipe aurait dû perdre à cause de ça? C'est impensable. Hein? Mais au final, c'est pas du tout, à mon avis, ce que Kitano essayait de faire. Il n'était pas en train de montrer que la bureaucratie du baseball est absurde, qu'on ne peut pas gagner. C'est que tout le mystère fonctionne entre les moments. Et c'est entre les règles que toutes ces choses-là fonctionnent et sont... l'insaisissable du baseball se retrouve entre le code du baseball. Il se retrouve dans les choses qu'on ne peut pas prévoir. Puis on ne peut pas prévoir que quelqu'un qui était sa bolle et qui, tout d'un coup, est demandé à faire un acte sous immense pression, réussit. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit tellement heureux qu'il oublie momentanément les règles, court plus vite que la personne au premier, dépasse littéralement quelqu'un d'une longueur d'avance et finisse par coûter la partie à son équipe, malgré qu'on avait tout là pour le plus grand success story de la journée. Puis c'est un peu ça, on a tout dans le film pour le plus grand success story de la journée, mais on est continuellement rebuté à des situations de plus en plus absurdes. Ce qui est un peu un rappel à ce que Cassio Abe dit, quand les règles viennent démontrer l'absurdité. Mais à mon avis, c'est entre les règles qu'on se retrouve avec plus d'absurdité, mais bon, ça c'est moi-même. L'histoire est assez simple. On se retrouve avec un personnage, comme je vous le disais, interprété par Yurei Yanagi, Yanagi, je vais le prononcer comme il faut, qui, de fil en aiguille, aura à, malencontreusement, beaucoup plus s'enfoncer dans une histoire de crime organisé, à un point tel qu'à la moitié du film, il rencontrera un mafieux assez excentrique, joué par Kitano, qui va faire des scènes de slapstick pas croyables dans des bars de karaoké. C'est une scène magnifique que vous devez voir où il y a des brisures à répétition de bouteilles de saké sur la tête des gens, mais à répétition, je ne fais pas honneur à la scène. Elle est tellement construite de manière slapstick absurde, tatillesque, c'est incroyable. Et on a des scènes d'un inconfort sexuel comme c'est pas croyable. Bon, ça, c'est un autre truc que vous devez aller voir. Boiling Point et le film où Kitano est totalement libéré, bon, comme je l'ai déjà mentionné, mais crée une œuvre qui, à mon avis, est totalement insaisissable. Ça n'a pas de sa place. Non pas que ça n'a pas sa place nulle part, mais ça n'a pas de code génétique apparent. Ça n'a pas d'ADN direct. Il est vraiment dans son... Puis, bon, si on revient à la citation où il se traite de cancer dans le cinéma japonais, ben c'est là où Boiling Point, où la citation, à mon avis, devient très évidente, c'est que il est certes peut-être un cancer parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut le suivre après ça, et que si le cinéma japonais se met à faire tout du truc comme Boiling Point, bien évidemment qu'il va s'auto-manger puis mourir, mais le cancer est tellement hilarant. Et si je veux lire cette citation-là de cette manière, je vais choisir de voir la phrase de Kitano, non pas comme une façon de se déprécier, mais de dire qu'il est une cellule anormale qui ne doit pas être copiée par les autres. Cette anormalité cellulaire, qui est le cancer, ne doit pas se multiplier parce que c'est là où l'organisme ne peut plus tenir. Mais l'anormalité cellulaire doit exister pour être capable de continuer à exister. On doit avoir mutation, mais il ne peut pas y avoir mutation jusqu'à corruption. Ça, c'est peut-être très biologique, mais à mon avis, Boiling Point est plus une mutation qui ne peut pas être imitée, ou du moins qui ne doit pas être imitée. Elle peut l'être parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent au Japon, mais elle ne doit pas l'être parce que c'est là où il y aurait pullulation des cellules cancéreuses et mort du système. Puis je pense qu'il prend conscience de ça, et dès qu'il prend conscience de ça, il fait « a scene at the sea ». Qui la meilleure façon de le décrire, c'est une adresse. Pardon, avant de quitter par rapport à Boiling Point, un des trucs que je trouve vraiment intéressant, puis bon, encore, ça n'a pas été super gros mentionné, le personnage central de Yurei Yanagi, en fait, il y a une très très belle entrevue sur le DVD de Film Movement où on le rencontre, puis il se mentionne lui-même comme étant probablement le membre le moins utile de l'armée de Takeshi. Il dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'étais là, je n'ai pas vraiment... servi à grand-chose, mais quand on m'a mis dans Boiling Point, ben, il y a plusieurs personnes qui ont vu ce rôle-là, et tout d'un coup, il entend parler de... je pense que c'est... Takashi Shimizu. Ça se pourrait bien. Takashi Shimizu, dans ses premiers films, a dit « Je veux que tu performes. » Il dit à un de ses acteurs « Tu devrais jouer comme Yurei Naragi. » Non, pardonnez-moi ça. Ah, oui, ça serait lui. Comme Yurei Yanagi. Et un peu plus tard, Shimiku, et j'ai la misère avec mes noms, pardonnez-moi, Takashi Shimiku, le réalisateur de Juon, aura l'opportunité d'engager Yurei Naragi pour jouer dans Juon. Yanagi aura aussi joué dans les films de Hideo Nakata, il a joué dans Don't Look Up, il a joué dans Ringu, il a joué dans Ringu 2, il a joué dans un film de Kiyoshi Kurosawa, il a joué dans un film de Sabu, il a joué dans Non-Stop de Sabu, il a joué dans un film de Jun Ishikawa, et il a joué dans un film de Koshi Shiraishi, Jurei. Donc autant qu'il était à ses propres dires, le most useless member of Takashi's army, il a réussi à sortir une performance qui l'a fait remarquer. Et il est devenu un des acteurs les plus présents sur la scène japonaise moderne. Fait qu'il y a quelque chose de très inspirant par rapport à la performance de cet homme-là qui joue quelqu'un sa bol comme personne d'autre et qui a réussi à faire une carrière absolument immense à partir de cette performance extrêmement juste. Puis là, je peux faire le pont avec Sinatasi parce que j'ai utilisé le terme « juste ». L'expression la plus juste pour parler de Sinatsi, Adesi, c'est la ligne claire. Et la ligne claire, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à la bande dessinée, mais qui, à mon avis, fonctionne énormément bien par rapport au film et qui fonctionne bien par rapport à Kitano et sa propre prise de conscience par rapport à son cinéma à l'époque. C'est qu'il dit qu'il ne pouvait pas, à la manière d'un cancer, imiter ses propres cellules et faire un autre Boiling Point. Il a décidé de faire quelque chose de totalement différent. En faisant quelque chose de totalement différent, il fait Essay Natessi, qui est l'histoire d'un vidangeur sourd-muet qui trouve une planche de surf et qui décide, en tant qu'amateur, de commencer à faire du surf, accompagné par, je ne suis pas 100% certain si c'est sa sœur ou si c'est une autre sourd-muette qui l'accompagne, qui ira le regarder surfer. Et tout le monde va commencer à le regarder surfer et le surf va devenir quelque chose de populaire dans son environnement. Il sera accepté par la communauté de surfeurs côtiers japonais, participera à un concours, gagnera pas, continuera à surfer. Et c'est à peu près tout. Honnêtement, l'histoire est une lente fable à la fois de qu'est-ce que c'est une réflexion, à mon avis, assez poétique sur qu'est-ce que c'est de surfer sur une vague, qu'est-ce que c'est d'être capable de devenir assez léger pour manipuler l'eau et tenir sur l'eau. Qu'est-ce que c'est d'être proche de l'océan en étant sourd-muet? Il y a beaucoup d'idées, mais beaucoup d'idées extrêmement introspectives et très réflectives par rapport aux sentiments internes. Puis c'est Kitano qui fait « Je m'en vais faire totalement autre chose. Je m'en vais dans le méditatif. Je m'en vais dans l'introspectif. Je m'en vais même, limite, il y a une lecture que vous pouvez faire surnaturelle, si ça vous tente de vous amuser avec ces notes-ci. Mais décidément, il y a quelque chose de très... éthéré dans le film, qui est aussi porté par le fait que c'est le compositeur musical des films de Miyazaki qui travaille sur le film. Donc on se retrouve à avoir quelque chose de, non pas fantastique dans les faits, mais fantastique dans l'approche. Très fabuleux, très très bien amené. Une brèche, si on peut dire, dans notre vie pour donner un moment de légèreté ou un moment de souffle. Et c'est là-dessus. Et aussi important que tous les autres films, à mon avis, pour être capable de comprendre Sonatine, qui est bon, le quatrième et dernier film dont je veux parler rapidement, qui est le film de 1993. Fait que là, on est vraiment 89, 90, 91 et 93. Kitano fait Sonatine en 1993. Et là, il prend tous les éléments de ces trois films-là, les trois films auparavant, Violent Cop, Boiling Point et Sin Nadesi, et fait Sonatine. Et c'est avec Sonatine qui décolle et a son attention. L'affaire avec Sonatine, c'est qu'il a été très, très mal reçu au Japon. Puis ça fait en sorte qu'à mon avis, il vient se connecter totalement à Akira Kurosawa et la mauvaise réception de Ikiru. Kurosawa, dans ses entretiens, explique qu'il a fait une grande dépression en 1950. Kitano dit la même chose par rapport à la suite de Sonatine. La suite de Sonatine et sa dépression, encore sans vouloir dire que c'est de la faute de la dépression qui a fait son accident, mais c'est sans doute, puis même à ses propres dires, dans le climat de dépression que Kitano a fait l'accident en moto dû à la consommation d'alcool et aussi dû au fait qu'il n'était pas bien dans sa peau à ce moment-là parce que le Japon n'avait pas approuvé la transition que Kitano a fait vers le cinéma. Approuvé le personnage. Puis c'est là où c'est quelque chose de très tragique parce que c'est à ce moment-là où il est totalement dépressif, qu'il fait sa grande œuvre qu'il fera connaître, ou qu'il commencera à le faire connaître à travers le monde, à la même manière de Kurosawa. Puis c'est, à mon avis, un autre exemple de réalisateur japonais qui fait une œuvre absolument brillante, qui n'est pas reçue dans son pays et qui souffrira de dépression, et qui, limite, ne s'en remettra pas. On le sait qu'Akira Kurosawa ne s'en remettra pas moralement. Mais Kitano, lui, c'est physiquement qu'il ne s'en remettra pas. C'est pas de sa dépression. Il ne se remettra jamais physiquement de son accident de moto. Sonatine est le film complet. Puis c'est le film que je vous encourage, vivement à tous les voir. Parce qu'il fonctionne en addition, je vous dirais. Sonatine se comprend de mieux en mieux, le plus que tu vois les autres avant, comme des pièces encore utilisées, une ADN idéologique. Mais il se bâtit autour pour arriver à Sonatine. Sonatine, c'est l'histoire d'un chef d'un groupe de mafieux qui décide de se présenter à son boss en disant « Je pense que ça leur ferait du bien d'aller prendre un break », qui vont en vacances en région, en fait, dans une... pas une station balnéaire, mais qui vont sur le bord de la mer et qui se mettent à s'amuser comme des petits-enfants, qui régressent à un certain point à un stade d'adolescent, redeviennent des petits garçons, s'amusent comme des fous, et le backstory de la pègre viendra les rattraper et ils auront à se défendre à ce moment-là, malgré qu'ils ont retrouvé un état de blissful ignorance en étant totalement en vacances et en pouvant redevenir des enfants. Donc je pense que vous voyez très bien en quoi est-ce que ces films-là, les trois films auparavant, viennent totalement dresser le portrait idéologique de Sonatine. Et Sonatine devient la carte de visite à l'international pour Kitano. Tout le monde fait « Wow! » Puis c'est évidemment, c'est dans ce film-là qu'il y a mais enfin, on le voit aussi dans Boiling Point, l'usage des fleurs, et aussi dans El Cine de Si avec les longs travelling sur l'océan et tout, les vagues. Mais il y a vraiment dans Sonatine la complétion des plans poétiques de Kitano. Malheureusement, le temps me coupe un peu. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de vous parler des premiers films de Kitano. J'espère que vous avez autant aimé ça que moi. J'espère que ça vous a vraiment donné le goût d'aller écouter les films. Sérieux, je m'en vais passer une semaine de silence. Puis honnêtement, je pourrais pas être plus... Comment est-ce que je peux dire ça? Je suis plus heureux de le faire maintenant que je le faisais au début de l'émission. En introduction, je vous partager un peu mon anxiété, ça va beaucoup mieux maintenant que je sais que j'ai réussi à faire cette émission-là comme il faut, malgré que j'étais un peu fatigué et tout, j'ai quand même réussi à faire une heure sur Kitano, une heure que je considère qui est quand même assez, qui tient la route. J'espère que vous avez eu autant de plaisir et de satisfaction à l'écouter que moi j'ai eu à la faire. Honnêtement, merci de l'écouter parce que je vais comme mieux vivre ma semaine en sachant que vous êtes en train d'écouter ceci. Si vous avez beaucoup aimé, vous pouvez commenter sur iTunes, mettre des étoiles, mettre des commentaires sur la page Facebook, faire connaître l'épisode à vos amis. Je vous demande pas de l'argent. La meilleure façon que vous pouvez aider le septième handicap, c'est d'en parler. Pis si vous aimez ça, ben ça devrait pas être trop content. Ça devrait pas être trop compliqué de vouloir le partager avec les gens. Je pars de ce pas pour un silence. Bonne semaine tout le monde. Je vous aime fort. Bonne écoute.